Dans Matthieu 28, on va lire le chapitre au complet. C'est pas un très long chapitre. Disons que dans les récits sur la résurrection, c'est pas dans les plus longs. Mais vraiment, il y a des points très importants. Et on voit que Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a retenu des choses, a souligné des choses bien spécifiques qui ont une valeur par rapport à ce qu'il voulait transmettre comme message. Matthieu qui écrit, à qui, et bon, ça vise tout le monde, mais qui en particulier comme auditoire? Les Juifs, effectivement. Et vous allez voir que ça a bien rapport. Maintenant, on est dans Matthieu 28, on va lire le chapitre au complet à travers le message, mais juste pour s'introduire, j'aimerais juste lire les 10 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Je l'ai souligné ce matin, le message comme celui de ce matin ne sera pas nécessairement typique comme à l'habitude pour une série à développement explicatif comme je l'ai fait à travers tout l'évangile de Matthieu. Mais on va considérer ensemble les versets, puis aussi une autre affaire qui est différente, c'est que je prends la série de Matthieu qu'on termine avec ce texte-là ce matin, cet après-midi. Ça va bien, hein? Je ne sais plus trop quand qu'on est. Puis, je vais clore la série de Matthieu, mais en lien avec la Pâque, la Passion et aussi la célébration du repas du Seigneur. Et vous allez voir, ce n'est pas des éléments qui sont étrangers l'un à l'autre. Le titre du message, c'est simplement « L'espérance de l'amour ». On développait ça à travers le message, mais c'est un sujet de grande joie et de célébration que la résurrection, que le fait que Jésus n'était pas dans le tombeau quand ils sont allés et qu'il est effectivement ressuscité, mais c'est aussi un grand sujet de joie et de célébration que le repas du Seigneur, de se ramener à cette grande vérité que Jésus a dit « Je suis avec vous ». Il y a un sens particulier dans lequel le Seigneur est présent dans la célébration de la scène du repas du Seigneur par une église comme ici, après-midi. Et, vous savez, pour les gens à l'époque, c'était quelque chose de vraiment spécial qui arrivait là. Et pour nous, on se remémore, on veut saisir tout le sens de ce qui est arrivé là, mais aussi le sens du fait que Jésus est encore avec nous aujourd'hui et a promis jusqu'à la fin du monde. Et, dans le fond, ça l'a fait renaître chez ceux qui étaient témoin de ces choses, ça l'a fait renaître l'espérance. Mais on va voir renaître spécialement l'espérance de l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que Dieu les aimait, ils les avaient pas abandonnés, et que tout ce qu'il avait dit était en train de s'accomplir, que Dieu était fidèle à sa parole, et que dans son amour, il avait tout orchestré, dirigé ces choses-là. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble avec, simplement avec notre texte, ce matin, cet après-midi, hein, ça fait deux fois, j'ai 203, il va y en avoir un autre qui va suivre. Juste deux groupes de personnes qui ont expérimenté l'espérance de l'amour. D'abord, avec ce qu'on vient de lire, le premier groupe, c'est ceux qui suivent. Ceux qui suivent, ça y est, ceux qui dirigent, ceux qui suivent. On commence par ceux qui suivent. Ici, c'est les femmes. Les femmes n'étaient pas en leadership, ils suivaient On sait, ils ont suivi Jésus aussi beaucoup. On l'a vu, hein? Ils regardaient ce qui arrivait, puis ils étaient témoins de ces choses, OK? Ils suivaient de très près, en fait. Mais ils suivaient. Et la résurrection, de par son triomphe sur la mort, donne toute qu'une espérance pour tous ceux qui croient, pour tout le monde, OK? D'ailleurs, on dit, pas on dit, mais ça dit dans Romains, chapitre 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il y avait beaucoup de confusion, mais là, avec la foi qui s'assoyait sur le fait de la résurrection, du triomphe, de la mort, ça l'enlevait la confusion, ça l'enlevait l'espèce de nuage qui faisait que, comme on a vu avec les disciples d'Emmaüs qui disaient, « Nous espérions que ce soit lui. Hein? » Il avait comme perdu espoir, mais là, cette espérance se ranimait de par le tombeau vide. Et donc, si pour tout le monde, le triomphe de la résurrection sur la mort, c'est un sujet de joie, d'espérance, ce l'est aussi spécialement pour ceux qui sont appelés à suivre. Suivre le Seigneur, suivre dans les différents rôles. Et en passant, on a tous des rôles où est-ce qu'on suit à quelque part ou l'autre. Même quand on est plus dans un rôle de direction, on suit quand même. D'abord, on suit tous le Seigneur, mais on est aussi sujet à différentes autorités. Donc, le chapeau nous fait tous de différentes façons, ici, après-midi. Mais ces femmes-là, ici, je crois qu'elles étaient bien conscientes qu'elles n'étaient pas au contrôle, qu'elles ne pouvaient pas tout comprendre puis tout contrôler ce qui arrivait. Elles subissaient les événements et la tragédie de la croix, comment tout ça semblait être vraiment une histoire qui finissait en queue de poisson. Et là, elles étaient complètement dans l'expectative. Et savez-vous, on peut dire que ces femmes n'étaient pas des expertes théologiques. Les femmes n'avaient pas, c'était une exception extrêmement rare, une femme qui peut avoir une certaine éducation, à moins d'être dans une famille royale, où est-ce que là, une princesse ou quelque chose peut avoir un certain... même là, c'était pas nécessairement toutes les connaissances qu'un homme pouvait avoir. À l'époque, c'était comme ça. Donc, c'était pas des gens qui étaient ferrés, versés dans la théologie puis tout ça et toutes ces choses-là, malgré qu'elles connaissaient les Écritures, parce qu'elles pouvaient y être exposées en allant à la synagogue et tout ça. Mais en allant au sépulcre comme ça, ils allaient là, disons, avec pas grand-chose dans leur bagage théologique, dans leur connaissance nécessairement, mais elles ont ajouté foi à ce que le Seigneur leur a montré, le tombeau vide. Et probablement que comme les autres disciples, ils étaient assoupis par la magnitude du drame, de l'horreur de ce qui était arrivé. Mais ça a été l'étincelle de l'espérance. Ils pouvaient enfin avoir sujet de voir que l'histoire finalement n'avait peut-être pas été aussi dramatique, n'avait pas fini aussi mal qu'elle le pensait. Et l'ange se présente à elle. Pas les réprimandant. Ah, vous êtes donc bien. Tu sais, Jésus a dit ça aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous êtes lents à comprendre, vous, dans le cœur, et lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais non, la seule subtile réprimande, c'est seulement peut-être qu'il dit au verset 6, comme il l'avait dit. Mais sinon, il est plutôt en train de les encourager. Il se présente à elles. C'est assez effrayant, j'imagine, comme apparition, parce que les gardes, qui étaient des hommes formés au combat, des militaires, ils étaient apeurés. Puis bon, ils sont tombés dans une espèce de sommeil qui, je crois, qui est une intervention divine. Là, Dieu les a endormis. Là. C'est-à-dire une espèce de sommeil. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais Dieu les a comme mis en dehors de cette scène-là. Et ces femmes étaient là, puis ils voyaient ça. Et elles qui se voyaient dans une grande impuissance de tout comprendre ce qui arrivait, puis aussi d'essayer de faire de quoi par rapport à ce qu'ils vivaient, qui avaient probablement perdu pas mal d'espoir, qui n'étaient pas nécessairement correctes dans toute leur compréhension par rapport à Jésus, son œuvre, puis tout ça, elles avaient néanmoins un amour authentique pour lui qui a fait qu'ils sont allés au sépulcre. Parce qu'il probablement qu'ils se rappelaient que Jésus avait dit. Donc, ils sont allés voir. Et même si cet amour pouvait être imparfait, il n'a pas été rejeté par le Dieu de toute grâce. OK, peut-être qu'elle ne cherchait pas de toute la bonne façon, mais elle cherchait. Et c'est ça le plus important. Leur connaissance n'était peut-être pas parfaite, mais leur amour était fort et authentique. C'est un grand réconfort. Lorsqu'on apprend à suivre, sans nécessairement tout comprendre, ou sans être certain nécessairement de tout, parce que des fois, comme on le voit avec cet homme qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », même quand on est une personne, des fois, on peut avoir des doutes. C'est réconfortant de savoir que simplement notre attachement au Seigneur, même si on n'a pas toutes les réponses, puis si on ne comprend pas tout, juste le fait de s'attacher au Seigneur par un amour sincère pour lui et s'accrocher à ce qu'on connaît de lui, c'est ça qui plaît au Seigneur. Ce n'est pas une grande foi qui déplace des montagnes, c'est une foi qui s'attache à lui. Et elle peut être petite cette foi-là, et elle va déplacer des montagnes si elle est attachée à celui qui est capable de déplacer des montagnes. Et l'amour parfait bannit la crainte. Ces femmes-là avaient des craintes, il y avait une faiblesse inhérente, comme nous tous. En tant que femme, peut-être qu'elles sentaient même plus cette faiblesse. Mais l'amour parfait, c'était pas le leur. C'est celui de Christ.
Amen.
L'amour de Christ qui s'est révélé à eux a banni toute crainte.
Amen.
L'amour de Dieu s'est révélé. Voyez-vous, c'est l'espérance de l'amour. Et c'était tellement important pour ces femmes qui étaient appelées à suivre, mais on va voir aussi avec le deuxième groupe que c'est aussi important pour ceux qui sont appelés à diriger. Et encore là, le chapeau nous fait dans différents rôles de notre vie. Bon, peut-être pas pour Charles puis Caleb puis peut-être qu'ils s'essayent, là, mais... Peut-être pour, tu sais, l'aîné de la famille, peut-être qu'elle dirige un peu plus. Je pense qu'elle veut aussi, hein. Bon, ça, on va laisser les parents dealer avec ça, mais bon, là, je m'égare. Ceux qui dirigent. D'abord, il y a une mauvaise catégorie de gens qui dirigent au verset 11 à 15. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques-uns des hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ça, c'est un groupe qui dirige. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Comment en fait pour savoir ça s'ils dormaient? On sait que c'est les disciples parce qu'on dormait bien fort. « Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Autrement dit, c'est de la manigance pour cacher la vérité. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Le premier groupe de dirigeants, c'est un mauvais exemple de dirigeants, des gens égocentriques qui se servent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas connu, expérimenté, ils ne sont pas en lien avec celui qui est la vie. Ils sont encore morts dans leur offense et leur péché, donc sont condamnés à diriger de la mauvaise façon. Mais le deuxième groupe, au verset 16 à 20, c'est différent. « Les 11 disciples allèrent en Galilée, verset 16, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils vinrent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deuxième groupe qui dirige, c'est un bon exemple. Pas parfait, on voit que certains avaient des doutes, mais ils étaient christocentriques. Ils se centraient sur Christ, leur Seigneur. Et on voit, Jésus leur a enseigné, il leur a demandé d'enseigner et d'observer tout ce que lui avait prescrit. Donc, leur mandat, leur agenda, si vous voulez, c'était pas le leur. C'était pas pour leur fin, pour leur but, mais tout était dirigé par le Seigneur. Ils devaient avancer le plan de Dieu. Leur direction venait de leur soumission à celui qui est le dirigeant suprême. C'est comme ça qu'on dirige spirituellement, en se soumettant à celui qui est notre autorité suprême. Ah, j'aime ce verset, ou cette expression quand se dit, c'est la toute fin de l'évangile de Matthieu, et voici, je suis avec vous tous les jours. Il ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais je suis, quand on voit ça dans la Bible, là, de la bouche de Jésus, là, c'est très significatif. Je suis, c'est le nom de Dieu, l'Éternel, je suis celui qui suis. C'est comment Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Quand il a demandé, c'est qui m'envoie, qu'est-ce que je vais dire? Il dit que celui qui s'appelle « Je suis » t'envoie. Et ça fait un lien, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, mais l'évangile a commencé avec ce concept du « je suis » parce que c'est quoi le nom que l'ange dit de donner à Jésus? Emmanuel. Encore là, ça vient des prophètes, ça vient d'Ésaïe 7. Emmanuel, Dieu avec nous, je suis avec vous. Il y a vraiment un lien ici. Et c'est le sens fondamental de la célébration du repas du Seigneur. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça garde au centre de la vie d'une église comme la nôtre, Jésus notre Seigneur. Celui qui est avec nous. On ne doit jamais l'oublier. On n'est pas un club social glorifié avec des choses un peu à la religiosité pour essayer de mettre ça à la sauce chrétienne. Non, nous sommes le corps de Christ. Nous lui appartenons. On n'est pas une organisation. On est un organisme vivant.
Amen.
Ah, ça, c'est un bon amen au bon moment. Vous l'avez, l'affaire! Ah, fait du bien d'être avec les miens. Les autres ont besoin d'apprendre. Priez pour les néo-écossais. Un néo-écossais me disait lui-même, on est dur de la caboche. J'ai dit, oh mon ami, pour moi, on peut faire un concours là-dessus parce que les Québécois, on est pas mal cabochons aussi. Mais bon, t'as l'air que les autres aussi sont assez têtes dures. Donc oui, Jésus qui reste le centre et tout ça, c'est ça l'idée du repas du Seigneur. Puis, comme je disais, l'expression « je suis », ça fait écho à ce qui est arrivé avec le buisson ardent. Et c'est une affirmation de la divinité de Jésus. Puis là, c'est pas la seule fois. Ici, on l'a de façon un peu plus subtile, mais vous vous rappelez dans Jean 8, 58, où est-ce que... Moi, la première fois que j'ai lu ça dans ma Bible, je pensais qu'il y avait une faute d'orthographe. Parce que Jésus parlait aux pharisiens, puis il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais la première fois que j'ai lu ma Bible, tu sais, au début, au niveau chrétien, on connaît pas trop. Y a-t-il une erreur dans ma Bible? Je disais, hey, ça se peut-tu qu'il y a une erreur d'orthographe? Et là, après ça, j'ai. Puis de toute façon, quand on comprend pas, souvent les pharisiens viennent à notre rescousse pour nous expliquer. Parce que si j'avais mal compris, après ça, ça a pris qu'il a pris les pierres pour le lapider parce qu'il se faisait légal à Dieu. Donc, il déclarait être la voix, celui qui parlait dans le buisson ardent. Donc, Jésus est le grand je suis. Et c'est spécialement significatif avec cet évangile de Matthieu qui s'adresse aux Juifs, à Israël, parce qu'il les laissait sur une note pour les faire réfléchir à qui ils ont crucifié, qu'ils voyaient comme un simple homme alors qu'il est le grand je suis. Puis là-dessus, je veux faire écho à ce que Pierre a dit de façon très claire. On parlait tantôt du club des directs, là. Si Pierre était assis à l'église, il serait dans le club des directs. Écoutez ce qu'il a dit. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui a rendu témoignage devant... à qui Dieu, pardon, a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par des mains impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Ça, c'est assez direct. Vous l'avez crucifié par des mains impies. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et qui l'a répandu comme vous le voyez et l'attendez. Voyez-vous, c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé et ça a été annoncé, proclamé avec autorité par les chrétiens de l'Église primitive, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Tout cela nous amène au point central de cette résurrection. Comment c'est important, comment c'est une grande vérité pour tous, mais je dirais spécialement pour ceux qui sont appelés à diriger. Parce qu'on ne suit pas un Dieu mort et enterré, mais un Dieu vivant et vrai. On n'a pas besoin d'essayer de décider nous-mêmes où, quand, comment diriger, mais simplement de le suivre, lui. Ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et donc, on dirige en suivant celui qui dirige. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Dieu nous a déjà tout donné. Et j'aime cette expression lorsqu'il dit « je suis », mais aussi « avec vous ». Ah, comme ça, c'est une expression importante dans la Bible, « Je suis avec vous ». C'est une expression de réconfort. Quand les gens ont peur, typiquement, c'est ce que Dieu dit. Ancien, Nouveau Testament, Paul était à Corinthe, ça virait pas tout le temps bien là-bas. Lui dit, fais-toi-en pas, je suis avec toi, puis j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est une des plus grandes et précieuses promesses de la parole. On doit nourrir nos cœurs avec ça. Et il n'y a pas de date d'expiration pour nous en ce moment. Jésus a dit, c'est jusqu'à la fin du monde.
Amen.
Puis la dernière fois que j'ai vérifié, c'est pas encore là. En tout cas, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Peut-être qu'on voit les signes de la fin, mais on est encore là, ça veut dire que c'est pas encore la fin. C'est pour ça que je pense, puis je termine avec ça, le repas du Seigneur qu'on s'apprête à célébrer est un moment saint, c'est-à-dire mis à part, particulier et bon, parce que ça nous rappelle l'actualité du fait que Dieu est avec nous. C'est ça le repas du Seigneur. On se rappelle avec les éléments et il y a dans le repas du Seigneur la présence du Seigneur d'une façon spéciale au milieu de nous autres parce que tous ensemble, on se met les yeux sur lui, sur l'œuvre du calvaire. Et on fait ça parce qu'il est vivant. Et il est au milieu de nous parce qu'il est vivant. Et en passant, le fait que Dieu est avec nous, quand on voit dans Agée, j'ai cité ce passage ce matin, mais quand Dieu dit à Agée, je suis avec vous, ben excusez, il n'a pas dit Agée, c'est le prophète Agée qui dit à Zorobabel puis à Josué, il leur dit, je suis avec vous. C'est quoi l'effet que ça a eu? Ça les a réveillés. Ça a réveillé leur esprit. Ce matin, on a prié que Dieu sauve des âmes. Moi aussi, on a prié que Dieu nous réveille. Et savez-vous quoi? C'est lorsque Dieu est au milieu de nous d'une façon réelle et puissante que Dieu éveille notre esprit. Et a éveillé leur esprit pour qu'ils se mettent... Ça dit des dirigeants, ceux qui dirigent, donc Josué et Zorobabel, mais aussi le reste du peuple, ceux qui suivent. Puis ils virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Mes amis, si Dieu est au milieu de nous, puis qu'il agit, puis qu'on se ressente sur lui, ça devrait laisser personne indifférent. Si on est saisi par le fait que le Dieu vivant est au milieu de nous, qu'il agit, qu'il est vrai, et c'est ça qu'on s'apprête à se rappeler avec cette célébration du repas du Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur, juste avant de prendre les éléments, on veut juste te remercier de ce beau texte qu'on a vu sur ta résurrection. Et comme tu l'as dit, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu règnes, on l'a chanté tantôt, tu règnes en tout pouvoir. Tu es le Dieu qui a vaincu tous tes ennemis. Et Seigneur, on se tient dans cette victoire en Jésus-Christ. On te remercie de cette célébration aujourd'hui, de ce repas du Seigneur tellement spécial, parce que c'est celui... Où est-ce qu'on se rappelle le jour de la grande victoire? Merci Seigneur, bénis ce temps, béni sois-tu Seigneur au milieu de nous autres, au nom de Jésus. Amen.